Dr. Ted Hildebrandt, OT History, Lit. ET Theology, Lesson 8.
Symbole copyright 2020, Dr. Ted Hildebrandt. Il s'agit du Dr. Ted Hildebrandt dans la 8e conférence de son Histoire et littérature de l'Ancien Testament.
Et cours de théologie. Cette conférence commencera par les fils de Dieu et les filles de Homme dans Genèse chapitre 6 et passons à Abraham, l'ami de Dieu, la géographie de Mésopotamie ainsi que trois coupures dans la vie d'Abraham et de ses trois prétendus, enfants. Aperçu du quiz 0, 0, 0, 2, 0, 0. Très bien, commençons. Nous avons beaucoup de choses à couvrir aujourd'hui. Je dois attraper quelques diapositives de l'autre classe. Cette semaine, vous travaillez sur quoi? Lévitique, certains chapitres du Lévitique. Il y a deux articles, un que vous responsable juste de lire, l'autre vous êtes responsable du contenu sur les lois alimentaires. Je pense qu'il y a aussi des lectures dans notre père Abraham, puis quelques versets à mémoriser. Donc je pense que c'est à peu près tout. Oui, il y aura une question de contenu sur le notre père Abraham ainsi que l'article. Je pense que c'est à peu près tout ce que nous avons là-bas. Très bien, commençons par un mot de prière et ensuite nous passerons à Genèse 6. Passage et essayez de le traverser à nouveau. Père, nous te remercions pour cette journée. Nous vous remercions pour le privilège que nous avons dans ce domaine. Lieu de pouvoir examiner votre parole, d'exploreur des idées que d'autres ont pensées et de m'interroger sur ta grandeur et ta bonté et sur ta grande miséricorde qui a été exprimée à l'humanité ainsi que les grands moments de colère qui se sont abattus sur nous. Je priez pour que vous nous aidiez à apprendre à vous aimer en esprit et en vérité. Merci pour votre mot. Je prie pour que vous puissiez nous aider à le refléter, même aujourd'hui, dans nos vies. Chez le Christ. Non, Amen. Genèse 6, fils de Dieu et fille des hommes 2, 0, 1, 3, 27. Reprenons l'histoire. Nous travaillons sur Genesis. Nous sommes enfin sortis de Genèse 1 à 3. Aujourd'hui, nous allons donc passer au chapitre 6 et nous allons essayer de traverser les choses assez rapidement pour entrer dans la vie d'Abraham. Nous allions donc parler du déluge et de ce qui se passe là-bas avec les fils de Dieu et les filles de Homme. Dans Genèse chapitre 6, permettez-moi de lire cette histoire. Il dit, quand les hommes commencèrent à leur nombre augmenta sur la terre et des filles leur naquirent, les fils de Dieu virent. Les filles des hommes étaient belles, et ils épousaient celles de leur choix. Puis le Seigneur a dit, mon esprit ne luttera pas éternellement contre les mortels, car il est mortel, ses jours dureront être 120 ans. Ainsi, ce que vous obtenez est une diminution de la longévité humaine. Rappelez-vous qu'il vivaient tous jusqu'à 900 ans et quelque chose comme ça. Maintenant, Dieu dit que leurs jours seront réduits à 120 ans. Les Néphilim étaient sur terre à cette époque et aussi. Ensuite, quand les fils de Dieu devinrent filles des hommes et eurent des enfants par eux, c'étaient les héros d'autrefois, des hommes célèbres. La question est donc, le déluge arrive. À cause du fait que les fils de Dieu épousent les filles des hommes, pourquoi Dieu est-il si bouleversé? Avec ça, qui étaient ces fils de Dieu? Nous souhaitons donc travailler sur certains des questions. Qui étaient les fils de Dieu et pourquoi Dieu s'est-il autant mis en colère? En fait, le déluge en est le résultat. Vu ces titres 3, 2, 8, 5, 06. La première suggestion est que les fils de Dieu étaient les adorateurs de Dieu et les filles des hommes ne connaissaient pas Dieu. Donc, en gros, ce serait un mariage interreligieux. En fait, ce que vous avez ici est ce qu'on appelle le point de vue sétite. Le point de vue sétite est que les fils de Seth étaient la lignée divine. Les fils de Saïn étaient la lignée impie, fille des hommes. Il y a eu ce mariage mixte entre les fils de Seth et fils de Saïn. À propos, dans d'autres parties de l'Écriture, Dieu obtient il. Bouleversé par les mariages mixtes entre croyants et non-croyants. Vous souvenez-vous dans le Nouveau Testament, il est dit, ne soyez pas sous un joug inégal avec les non-croyants. Peuple juif. Vous mariez-vous souvenez-vous que Salomon a épousé d'autres femmes d'autres cultures et que a-t-il égaré son cœur pour adorer d'autres dieux. Donc le point de vue sétite joue sur cela et dit que fondamentalement, la lignée de Seth était le remplaçant d'Abel et que Seth devient donc la lignée divine. Machine translated by Google. 3. Après qu'Abel ait été tué, les descendants de Caïn se marient entre eux et ce mariage mixte est là. Problème? C'est ce qu'on appelle la vision sétite. Il y a un certain support pour cela, comme cela semble convenir. Naturellement dans le contexte. Mon problème est que le terme « fils de Dieu » n'est jamais utilisé pour identifier exclusivement les descendants d'Abel. Vu sur la royauté 5:078-07. Il y a une deuxième suggestion qui est assez intéressante et c'est celle-ci, que les fils de Dieu étaient les rois et les nobles. Que les rois étaient appelés, et d'ailleurs dans l'Antiquité en Mésopotamie, les rois se disaient ils, fils des dieux. Ce titre a été utilisé parce que le roi était considéré comme un fils du dieu. Donc ce qui se passerait alors, c'est que c'est les rois, ces gens au pouvoir à qui, ces, fils de Dieu, les rois, prirent des femmes qui seraient essentiellement de développer leur harem. En d'autres termes, ils ont pris les femmes dans leur harem et ils multiplièrent les épouses. Les harems présentent-ils un gros problème à la fois dans l'Antiquité monde et dans la Bible? Ce seraient donc les rois établissant un harem prenant des femmes. Dans ce harem plusieurs épouses et cela devient un problème. Maintenant, j'ai sauté quelque chose. C'est très intéressant pour moi et c'est quelque chose que je ne pense pas que la plupart des gens comprennent que ce n'était pas seulement ces fils de Dieu qui épousaient des filles. Des hommes, mais il y a un autre mot qui est impliqué ici. C'est fini au verset 11 du chapitre. Si il est dit, la terre était corrompue aux yeux de Dieu et pleine de violence, Hamas. Donc, apparemment, il y avait de la violence ici aussi, cela faisait aussi partie du problème. Maintenant, quel est le mot hébreu pour violence? Le mot hébreu pour violence est Hamas. Maintenant, certains d'entre vous sont peut-être habitués à l'humus. Est-ce que quelqu'un aime l'humus? Je n'aime pas l'américain. Riumus. J'aime le vrai houmous arabe. C'est ce qu'on trouve à Jérusalem, juste en face du 4e station de la croix sur la Via Dolorosa. Ce gars a le meilleur riumus du monde. C'est comme manger un steak au fromage de Philadelphie en dehors de Philadelphie. Cela ne fonctionne tout simplement pas et ce que tu sais ce que je dis. À Philadelphie, vous obtenez le meilleur. L'humus et le Hamas ne sont pas les mêmes choses. Hamas signifie « violence ». Au fait, avez-vous déjà entendu parler un groupe palestinien appelé Hamas? Est-ce que tu comprends? Il y a tout un groupe en Israël. Aujourd'hui nommé Hamas. Comprenez-vous ce que signifie la racine de ce mot? Ça veut dire violence. Que est-ce que ces gens sont déterminés à faire à Israël? Violence. Donc ce Hamas. Machine translated by Google. 4. Groupe, même leur nom signifie violence. Alors tout le monde dit, eh bien, le Hamas est vraiment un organisation pacifique. En réalité, ils essaient simplement de jouer la carte des droits des Palestiniens. Quel est leur nom? Hamas, ça vous dit quelque chose? Je veux dire, ça devrait en dire beaucoup mais la plupart des gens ne le savent pas. Quoi qu'il en soit, ces rois étaient impliqués dans tout cela et certaines personnes pensent alors que ces rois étaient impliqués dans la violence, opprimant le peuple qui était en dessous d'eux et donc ce Hamas se produisait. C'est le deuxième point de vue. L'idée de la royauté sera-t-elle développée dans la Bible? Les rois ont eu plusieurs épouses dans le mauvais sens plus tard avec les 700 femmes et 300 concubines de Salomon. Il y a donc des raisons à cela. Vu dans 8:08-09:05. Cette dernière vue est appelée la vue de l'ange. Je devrais dire en fait à différents moments de dans ma vie, j'ai eu chacun de ces points de vue, donc je ne me sens pas vraiment dogmatique à ce sujet. La vision que je défends actuellement est la possibilité de la vision angélique. C'est en grande partie parce que dans Job, chapitre 1, verset 6, il parle des fils de Dieu venant devant Dieu. Dieu dit à Satan : vous avez étudié le monde, avez-vous pensé à mon serviteur Job ? Satan dit : oh, oui, Job est juste bon avec toi parce que tu es bon avec lui. Si tu enlèves quoi ? Il vous maudira en face. C'était donc Dieu dans le conseil céleste. Les appelant, les fils de Dieu. Les fils de Dieu étaient des anges venus avant Dieu. Quelque chose d'intéressant dans Hébreux chapitre 13:2, il est également dit concernant les anges et les êtres humains. Hébreux chapitre 13 verset 2, désolé d'être passé au Nouveau Testament, mais il dit, continuez à vous aimer comme des frères. N'oubliez pas de divertir des étrangers, car ce faisant, certains ont reçu des anges sans le savoir. Donc, les anges peuvent-ils prendre forme humaine? Apparemment, parfois les gens ne le savent pas et c'était possible qu'ils soient des anges. Maintenant, je vais raconter une histoire ici, alors comment je vais marcher jusqu'ici et ça va être une histoire. Il était une fois, j'étais à Varsovie dans l'Indiana et je conduisais sur la route 15 et il y avait un gars qui faisait du stop. Maintenant, question, est-ce que les gens font du stop? Encore beaucoup aujourd'hui. Plus grand chose. Est-ce que les gens de ma génération? J'ai fait du stop. À la maison après l'université et partout. Alors ce type faisait du stop et je me suis dit, mec, je. Machine translated by Google. 5. Je n'ai pas vu personne faire du stop depuis longtemps. On aurait dit qu'il était visiblement hispanique et il avait besoin d'un tour. Il avait probablement la trentaine. Alors j'ai pensé que j'avais conduit mon voiture est passée devant lui une fois et j'ai pensé que tu savais que je devrais venir le chercher. Maintenant, je me pose une question. Un problème ici parce que ma femme panique toujours quand je fais ce genre de choses. Mais j'ai dit. Et, c'est juste moi et j'ai à la maison ma femme et mes enfants mais dans la voiture, c'est juste moi. Donc je revenais dans l'autre sens et j'ai donc pensé que j'allais le chercher. Alors j'ai choisi. Le gars debout. Pendant que nous roulions, il m'a dit qu'il était ivre ou quelque chose comme ça, il était dans son lit, dans son maison, et la police est entrée, l'a tiré de son lit et l'a emmené en prison. Il a en fait été jugé pour ivresse. Il a affirmé qu'il ne conduisait pas en état d'ébriété parce que il n'avait évidemment pas de voiture. Ils sont entrés chez moi, m'ont attrapé et m'ont tiré vers le bas. Ici. Alors il me raconte son histoire de malheur. Alors nous conduisons et je pensais que tu savais que ce serait seulement. Prends-moi 5 minutes pour le conduire jusqu'à l'autre route, la route 13, et ensuite il aura le feu vert. Abattu à Syracuse où il se rendait. Alors j'ai conduit le gars là-bas et voilà. Sans blague et plutôt bizarre. Le gars sort de la voiture et alors nous avons parlé et j'ai vraiment apprécier la conversation. C'était super. Je dois aider le gars et il sort de la voiture. Alors que le gars sort de la voiture, c'est la vérité honnête, je ne sais toujours pas quoi en penser. Il me regarde et il dit tu sais, certaines personnes ont diverti des anges. Ignorant. Il ferma la porte et descendit la rue. Je jure que je n'ai pas inventé ça. Cela s'est réellement produit. Maintenant, je ne sais pas si c'était juste un Espagnol qui avait un peu trop à boire et c'était toujours en lui ou autre chose. Alors que j'étais assis là, je sentais comme d'où cela venait un Espagnol qui me citait la Bible. C'était bizarre. Mais de toute façon, je ne dis pas que c'était un ange parce que je ne pouvais pas le voir. Allô, mais tout ce que je dis c'est qu'on ne sait jamais. Maintenant, permettez-moi de revenir en arrière et de prendre cela dans une direction différente. Est-ce possible alors tu es à Boston et il y a un sans-abri assis au bord de la rue. Est-ce possible? Hébreu 13 parle de faire preuve d'hospitalité. On ne sait jamais. Alors ce que je dis est ce que les chrétiens devraient ressentir de la compassion, offrir l'hospitalité et ce genre de choses envers les personnes sans abri. On ne sait jamais, ça pourrait être un ange assis là et toi. On ne sait jamais, Matt 25.35 FF. Donc tout ce que je dis, c'est d'être hospitalier et généreux. Machine translated by Google. 6. Hébreu semble indiquer qu'il existe des anges qui prennent une forme humaine. Parle. En fait, vous le savez déjà. Rappelez-vous quand Abraham et ses trois gars sont arrivés. Et Sarah leur a préparé le dîner. Est-ce que ces anges sont venus et apparemment toi? Il faut comprendre ça. Mais attendez une minute, Matthieu 23 dit que les anges n'ont plus se marier ni être donnés en mariage. Eh bien, ce que je suggère, c'est que ce sont des anges déchus. Ce ne sont pas des anges au ciel, mais ce sont des anges déchus et c'est une possibilité. Maintenant, c'est une autre question. Il parle de Yahweh, Malak, le ange du Seigneur dans le buisson ardent, Exode 3. Il l'appelle, l'ange du Seigneur. Maintenant, permettez-moi de travailler un peu avec le concept d'ange. Le mot « ange » signifie simplement « messager ». Ainsi, parfois, dans le livre de l'Apocalypse, il est question de « l'ange » du Église de Colosse ou de Laodicée et cela signifie simplement « le messager » qui est allé à cette église. Église. Cela ne signifie donc pas nécessairement un ange volant avec des ailes. Cela pourrait signifier simplement « messager ». Le terme « ange » peut signifier « messager ». Maintenant, c'est aussi l'ange du Seigneur. Il se pourrait donc que le représentant du Seigneur soit dans la brousse. Mais le problème est que le titre « l'ange du Seigneur » est utilisé et quand vous dans la brousse, quand la brousse va parler, que dit-il? On demande au buisson « que est-ce que ?» Votre nom. Laisse-moi juste faire le truc de la brousse. Alors Moïse monte vers le buisson ardent et il demande quel est ton nom, et tu te souviens juste avant que le buisson ait dit « Enlevez vos chaussures parce que vous vous tenez sur une terre sainte. » C'est maintenant le cas d'un ange normal. Venez et dites « et enlève tes chaussures. » Vous êtes en terre sainte. Est-ce que vous adorez un ange? D'ailleurs, dans Daniel et le livre de l'Apocalypse, un gars descend et commence. Adorez cet ange génial. Le gars s'incline et la première chose que l'ange dit, lève-toi. Ne le fais pas. Je ne suis pas Dieu. Le buisson ardent, enlevez vos chaussures. Eh! C'est un ange ordinaire. Et puis, quand il lui demande son nom, il répond, je suis. Que je suis. Un ange ne répond pas comme ça. C'est le nom de Dieu. Alors dans le buisson ardent. Nous avons Jéhovah / Yahvé, Dieu dans la brousse. C'est l'ange du Seigneur. Beaucoup de gens suggéreraient qu'il s'agissait de Jésus-Christ, le Christ incarné suprême dans la brousse. Il est Dieu et il parle et il est Yahweh. Alors il dit que mon nom est Jéhovah et mon nom est Je. Je suis ce que je suis. Le titre ange du Seigneur semble être un titre qui désigne aussi Dieu. Machine translated by Google. 7. Lui-même et quand l'ange du Seigneur parle, bien souvent, c'est Dieu. Donc tu as travaillé avec ça. Désolé d'avoir pris cette tangente. Où en sommes-nous ici? Les anges ne se marient pas. Donc ce que nous disons, c'est que ces anges sont anges déchus. Il y a aussi un passage dans les Corinthiens qui parle d'anges regardant en bas. Sur les femmes. Cela devient assez bizarre. Donc, je dis juste que c'était peut-être des anges. Il peut ont été des anges se mariant avec des femmes. Au fait, est-ce que cela expliquerait alors le fait qu'il avait des enfants géants et forts? C'est donc une possibilité. Maintenant, laquelle de ces réponses est la bonne? Comme je l'ai dit, j'ai tenu, à différents moments dans ma vie, chacun de ces postes. Donc je ne sais pas lequel a exactement raison. Je suis avec cette vue d'ange maintenant. Mais il y a certaines choses que vous ne pouvez pas savoir. Maintenant, les gens se demandent qu'en est-il des Néphilim. Personne ne sait qui sont ces Néphilim. C'était avant le déluge. Nous ne savons donc pas qui sont ces Néphilim. Quand tu ne le fais pas. D'ailleurs, je sais quelque chose, c'est un principe herméneutique important, lorsque vous. Je ne connais pas quelque chose dans les Écritures, comment connaître le sens d'un mot? Contexte. Je suis. Je vais le dire 100 fois dans ce cours. Que est ce qui détermine le sens? Contexte. Détermine le sens. Mais vous regardez le terme, Néphilim, et vous dites. Nous savons que le. Les Néphilim sont un groupe de personnes, nous le savons donc d'après le contexte. Savons-nous quel groupe de personnes c'est? La réponse est non. Alors, quand vous ne savez pas du contexte, où allez-vous? Allez ensuite. Bien souvent, on se tourne vers l'étymologie, l'histoire ou la racine du mot. Donc, quelle est l'étymologie? Quelle en est la racine, la signification historique? Naphal signifie tomber. Ce sont donc ceux qui sont tombés. Les Néphilim sont ceux qui sont déchus. Peux-tu voir en quoi cela est-il lié à la vision de l'ange déchu? Quel est le problème de dépendre de l'étymologie pour le sens? C'est un classique. Exemple. Alors je rentre chez ma femme et je dis, je ne l'appelle jamais chérie mais de toute façon, chérie. Tu es, mignon, dans le sens original de ce mot. Eh bien, quel est le problème avec le mot mignon? Le mot, mignon, dans le sens original du mot signifiait, j'embarquai. Et ainsi, ce n'est probablement pas une bonne chose à dire à votre femme car elle pensera probablement. De toute façon, tu ne veux pas y aller. Quand vous prononcez le mot « mignon », l'avez-vous déjà utilisé dans le sens originel? Les significations changent elles avec le temps. Pouvez-vous revenir sur l'histoire du Machine Translated by Google? 8. Mot et prétendre que son sens originel est ce qu'il signifie maintenant. Non, ce n'est pas le cas, alors tu. Il faut faire attention. Au fait, si vous êtes en anglaise et que vous souhaitez retrouver l'histoire d'un mot, où vas-tu? Pour vous, le premier endroit où vous allez est Internet. Mais après, sur Internet, si vous consultez un vrai livre, ils contiennent de vrais livres avec de vraies pages. Là, il y a 2 volumes à peu près aussi épais qu'on appelle l'OD, l'Oxford English Dictionary. Dans l'Oxford English Dictionary OD utilisera-t-il le mot « cute » pour 2 pages de « cute » jusqu'à ce qu'il revienne au sens racine du mot en anglo-saxon ou en latin ou quelque chose du genre comme ça. Ensuite, il vous donnera la racine d'origine. Et ce que l'histoire d'un mot, son étymologie, déterminer sa signification. Non, ce n'est pas le cas. Donc tu dois être très prudent. À propos de ça, faites attention à ce genre d'arguments étymologiques. La signification dans le contexte est ce qui détermine le sens et non l'histoire du mot. Je n'accorde donc pas beaucoup d'importance aux. Les Néphilim sont une approche déchue. J'ai mis là un gros point d'interrogation. Je pense que c'est juste. La seule paille que nous avons, alors nous la saisissons. Le chagrin et les larmes de Dieu au ciel 19:06-24:49. Maintenant, c'est intéressant, dans Genèse chapitre 6, verset 6, il est dit ceci concernant Dieu. Et l'Éternel vit combien la méchanceté des hommes sur la terre était devenue grande et que chaque inclination des pensées dans son cœur était toujours mauvaise. Et l'Éternel fut Il était affligé d'avoir créé l'homme sur la terre et son cœur était rempli de douleur. Une question se pose, y a-t-il du chagrin ou y a-t-il des larmes au ciel? J'aime juste Eric Clapton donc. C'est l'un de mes favoris. Y a-t-il des larmes au ciel? La réponse est, je pense que Clapton était droite. Diriez-vous que Dieu est quasiment au paradis? Oui. Nous n'y sommes pas, il est là. Ressent-il du chagrin au paradis? La Bible déclare explicitement que Dieu ressent du chagrin. Ce que je veux. Pour vous suggérer qu'il y a du chagrin au paradis. Dieu lui-même, comme il est dit dans l'Écriture, ressent chagrin et qu'il ressent de la douleur au paradis. Donc, ce que je veux vous suggérer, c'est qu'il y a du chagrin. Il y a de la douleur au ciel. Dieu peut-il avoir le cœur brisé? Ce que j'aimerais vous proposer, et je reste par ici pour celui-ci, qui est l'être dans l'univers qui souffre le plus. Ce que je suis. Ce qui vous suggère, c'est que Dieu est l'être le plus affligé de l'univers parce qu'il a créé. Les choses se sont bien passées et tout a été gâché. Il nous aime et quand la douleur et des trucs bizarres arrivent. Machine translated by Google. 9. Il en est affligé. Donc Dieu est l'être le plus affligé mais vous dites, mais attendez une minute. Mais le livre de l'Apocalypse, à la fin du livre d'Apocalypse 22, ne déclare-t-il pas que Dieu va essuyer toutes les larmes. À la fin de la Bible, quand Dieu efface tout. Des larmes, que est-ce que ça veut dire? Qu'il y avait des larmes à essuyer. Alors ce que je suis. Dire que Dieu essuie toutes les larmes suppose qu'il y a des larmes au ciel. Donc Clapton est droite. Il y a des larmes au ciel. Maintenant, question, viendra-t-il un jour où ces larmes seront essuyées? Et ce? Maintenant? Ce n'est pas le cas maintenant. Tant qu'il y a du péché et de la corruption, Dieu ressent-il de la douleur? Un jour, le monde va être refait et ses larmes seront essuyées. Quelle manière intéressante de regarder Dieu ici. Dieu est-il désolé pour quelque chose qu'il a fait? Dieu a-t-il regret? Les parents ont-ils parfois des regrets pour leurs enfants? J'aime mes enfants mais il y en a eu des moments où j'ai eu des regrets. Mes enfants peuvent-ils faire des choix et je ressens la douleur en tant que parent d'eux. Leurs choix. Peuvent-ils faire des choix qui font très mal? Tu ferais mieux d'y croire. Comme un. En fait, plus je les aime, pire c'est. Si je m'en foutais de mes enfants. Est-ce que je m'en soucierais? Mais le fait que j'aime mes enfants, est-ce que cela me rend vulnérable? Tu vois que est ce que je dis. C'est le fait que j'aime mes enfants qui me rend vulnérable. Bien nous. Mieux vaut sortir de là. Un de mes enfants a fait des choix qui ont été vraiment dévastateurs. Ce que je dis, c'est que si je m'en fichais, ça ne ferait pas de mal. Dieu a fait l'homme. Alors il est revenu et a dit qu'il repensait à l'ensemble. Chose et il se sent attristé par toute la situation. Permettez-moi de revenir un peu en arrière. Il était peiné d'avoir créé l'homme. S'il était encore dans le jardin, serait-il en deuil? Non. Alors il est attristé, pourquoi? Il y a ces mariages mixtes, il y a cette violence, il y a ça. Des choses qu'il décrit dans le chapitre. C'est pour ça qu'il est en deuil. C'est fini leur méchanceté. Leur mal. Alors il prend du recul par rapport à cela. Il se demande pourquoi je l'ai déjà fait. Faire l'homme puisque tout ce qu'ils font est corrompu. Ils sont tout totalement corrompus et c'est à ce moment-là qu'ils se concentrent sur Noé. Ce que je dis, c'est de prendre cela avec ce qu'il dit et il faut remettre cela dans son contexte. Droite. Le contexte dans Genèse 6 est celui des mariages mixtes et de la violence qui s'y produit. Donc je dis que vous ne pouvez pas prendre ce verset hors de son contexte et simplement dire qu'il dit, Dieu regrette. Machine translated by Google. 10. Qu'il a jamais créé l'humanité et donc il les abandonne totalement. Non, il y avait un Raison pour laquelle il a ressenti cela et vous devez explorer la raison pour laquelle. C'est vraiment un point important. Vous avez un verset et vous ne pouvez pas le sortir de son contexte. Tu dois regarder le dans son contexte. Pourquoi Dieu a-t-il ressenti cela? Cela vous dit dans le contexte pourquoi il se sent de cette façon. Vous devez donc le relier à d'autres versets. Vous ne pouvez tout simplement pas le sortir de son contexte. Comme ça. Nous revenons donc à la thèse principale, le contexte détermine le sens. Tu ne peux pas prendre parfois des choses tirées des Écritures et ensuite les universaliser, vous devez comprendre le contexte dans lequel ils sont donnés. Dieu peut-il changer d'avis? 2:4-5:0-2:5-4:3. Dieu peut-il changer d'avis? Revenons à ce qu'elle venait de soulever. Dieu peut-il changer son esprit? Il fait l'homme, peut-il changer d'avis? Allons-nous voir Dieu change son esprit? En fait, vous avez lu Exodus, Dieu a-t-il changé d'avis en Exode? Oui. Tu te souviens quand il fabrique le veau d'or et qu'il descend pour essuyer les sortir? Moïse prie et Dieu change d'avis. Il a failli tuer Moïse et recule. À ce sujet dans Chiffres. Nous nous demandons donc que et ce que cela signifie pour Dieu de changer d'avis. Je veux tout développer ici mais Dieu a fait l'homme et il a apparemment des regrets. Là-dessus. Que et ce que cela signifie pour Dieu d'avoir des regrets. Encore une fois, nous allons voir cela dans des textes ultérieurs donc je veux juste le laisser tomber à ce stade et dire que nous allons passer à d'autres textes qui sont beaucoup plus explicites, où nous aurons plus de contexte et où nous pourrons réellement trier ce que cela signifie. Mais tout ce que je veux que vous fassiez, c'est simplement que vous réfléchissiez à la question de savoir si Dieu peut changer son esprit. Que et ce que cela signifie? La malédiction de Noé sur Shem 25:4-4:3-6:50. Au chapitre 9, Noé sort de l'arche avec tous les animaux 2 par 2 et 7. Des propres. Pourquoi 7 purs? Parce qu'il doit sacrifier les plus propres. Après. Au fait, la Genèse nous a-t-elle déjà parlé des animaux purs et impurs? Non. Quand avons-nous entendu parler des animaux purs et impurs? C'est bien fini dans le Lévitique. Le Lévitique, que vous parcourez cette semaine, nous parle du pur et de l'impur. Mais Noé savait-il ce qui était pur et impur? Il est donc possible que Dieu ait créé un tout. Un tas de directives qui n'avaient pas été enregistrées pour nous mais Noé savait laquelle était propre. Machine translated by Google.
11. E.T. Imper.
Alors Noé sort de l'arche et quelle est la première chose qu'il fait? Noé était un homme de la terre et il a planté une vigne et il en a bu un peu. Quoi? 20. Quel est le problème quand on a un vignoble sans réfrigération? Tu ferais mieux de le boire vite ou est-ce que ça va tourner? Tu le prends et tu tournes ton raisin. Du jus dans quoi? De toute façon, ça va se passer comme ça. Ça va tourner au vinaigre ou tu le tournes. En 20. Alors il plante un vignoble, et maintenant il est sur un bateau depuis environ un an ou quelque chose comme ça. Il sort, plante sa vigne, il boit un peu de son vin et il s'est ivré et resté découvert à l'intérieur de sa tente. Et Shem, le père de Canaan, vit la nudité de son père et le dit à ses deux frères dehors, mais Sem et Japhet prirent un vêtement, le posa sur leurs épaules. Puis ils reculèrent et couvrirent leur la nudité de mon père. Leur visage était tourné de l'autre côté pour qu'ils ne puissent pas voir la nudité de leur père. Noé s'est réveillé de son vin et a découvert ce que son plus jeune fils lui avait fait et dit, maudit soit. Et alors, il sera le plus bas des esclaves pour ses frères, et Noé s'en va et jure. Que et ce que Ham n'a pas réussi à faire? Couvre son père. Au fait, est-ce un problème qu'un l'enfant voit son père? Mon fils et moi faisions du taekwondo ensemble. Alors maintenant, nous partirions. Là-bas, est ce que je me suis caché de mon fils et lui ai dit, mon fils, tu dois partir d'ici parce que je ne le fais pas. Veux-tu que tu vois la nudité de ton père? Pour que ton père ne se douche jamais devant toi. C'est de ça que ça parle? Non. Il semble donc y avoir quelque chose de plus que juste ça. Alors plutôt que de couvrir son père comme il aurait dû le faire, expose-t-il son père? Oui. Il part chercher ses frères. Maintenant, est-ce que ses frères font ce qu'il faut et marchent à l'envers pour couvrir la nudité de leur père? C'est une chose vraiment difficile dans notre culture. La fierté et la honte sont elles vraiment grandes dans certaines cultures. Et dans certaines cultures, tu as ça. Tabou selon lequel il est vraiment mal de faire honte à ses parents. Est-ce que certaines cultures ressentent cela très très fortement, la notion de honte et d'honneur? Au fait, est-ce que certaines cultures ressentent cela très fortement? Maintenant je parle de Détroit. Vous souvenez-vous que ces deux filles dans la voiture à Détroit et leur père étaient honte de ces deux filles qui sortent avec des noms musulmans. Les filles sont dans la voiture et la fille dans le Machine Translated by Google. 12. La banquette arrière est sur son téléphone portable et son père sort une arme à feu et tire sur sa propre fille. La voiture. C'était à Détroit, en Amérique, et la fille sur la banquette arrière criait dessus. Au téléphone, papa, papa, et elle crie lors d'un appel au 911 que son père vient de tirer sur sa sœur. Le père tourne alors le pistolet dans le dos, et tu entends le coup de feu puis le téléphone portable. C'était. Est-ce que cela s'est produit en Amérique, à Détroit? Au fait, vous êtes me donnant beaucoup de regards vides. Vous n'êtes pas au courant de ça. Maintenant, laisse-moi juste dire. Ce. Les médias en ont-ils parlé ou les ont-ils dissimulés? C'était dissimulé. Pourquoi? Parce qu'il était politiquement incorrect de dire quoi que ce soit sur le contexte. Le. Origine évidente du père musulman. Ce type était tellement offensé en tant que père que son. Les filles lui avaient fait honte parce qu'il les avait tuées. Au fait, y a-t-il assez de crimes d'honneur fréquents en Amérique? En entendrez-vous un jour parler dans les médias et la réponse est non. Maintenant, vous devez vous demander, je me demande pourquoi nous n'entendons jamais parler de cela. Maintenant, il y a des trucs d'agenda politique là-bas. C'est du politiquement correct devenu fou. Maintenant, question, dans la culture dans laquelle vivait ce père, la honte et l'honneur sont-ils vraiment importants idées? Vous souvenez-vous du tsunami qui a frappé le Japon? Et tu te souviens? Certains des dirigeants craignaient que les dirigeants là-bas ne se suicident. Parce qu'ils avaient honte parce qu'ils ne savaient pas que le tsunami allait arriver. Là-dedans et détruire ce réacteur nucléaire. Ils craignaient que certains des dirigeants du Japon allaient se suicider. Dans cette culture, si tu as honte de ne pas faire quelque chose comme ça, les gens peuvent réagir étrangement. Donc ce que je dis, c'est qu'en Amérique, nous soucions-nous de la honte et de l'honneur. Dans notre culture, sommes-nous une culture sans honte? Dans d'autres cultures, la honte et l'honneur sont vraiment importants. Donc ce que vous avez ici, c'est la honte du père, la dénonciation du père. Il y a plusieurs années, j'ai lu de la littérature ougaritique. Dans la littérature ougaritique, c'est juste au nord d'Israël, dans certaines tablettes ougaritiques, il est dit que l'un des devoirs, et c'est répertorié explicitement, que l'un des devoirs des fils est de couvrir la nudité de leur père. C'était le devoir d'un fils. Le devoir du fils est de couvrir la nudité de son père. Ce serait donc comme, ton père est ivre. Si le fils reconduit le père à la maison et s'occupe du Machine Translated by Google. 13. Père, au lieu de l'exposer. Donc je pense que c'est ce que vous avez ici, la honte et déshonneur du père. Alors Noé se réveille, découvre ce que ses fils ont fait, découvre ce que son autre fils il avait fait, et alors il maudit son fils et il dit, il sera le plus bas des esclaves. Ses frères. Maintenant, où vont les descendants de Ham? Si vous suivez l'arbre généalogique, est-ce que nous avez-vous les généalogies de ses enfants? Les descendants de Tchem deviennent Kush. Kush tombe en panne. En Éthiopie et donc, fondamentalement, les descendants de Tchem descendent en Afrique. Quand Noé les maudissant, il dit, il sera le moindre des Sélats pour ses frères. Certaines personnes ont a soutenu que c'est là la malédiction qui pèse sur l'Afrique et que cette malédiction sera le plus bas des esclaves. À ses frères, que Tchem est maudit et que ses descendants seront esclaves. C'est une malédiction sur l'Afrique et les esclaves africains. La Bible nous dit que c'est la malédiction de Noé. Cela légitime donc cela dans un certain sens. Des gens ont utilisé cet argument. Oui ça. L'argument a été utilisé. J'ai mal lu le texte mais elle m'a rattrapé. Eh bien, laissez-moi lire ce que cela dit réellement. Noé se lève et dit que Tchem soit maudit. Il ne dit pas ça. Il dit, maudit soit Canaan. Les descendants de Canaan, c'est vraiment difficile. Où les descendants de Canaan s'installent-ils? Dans le pays de Canaan. Où est le pays de Canaan? C'est la terre promise, c'est la terre d'Israël. Maintenant, qui est la descendance de Canaan? C'est encore une fois vraiment difficile. Quand vous ne savez pas qui ils sont, mettez simplement un « hite » ou « tit » à la fin. Jébusien, hittite. Gergachite. Alors c'est quoi? Alors ici, c'est cananéen. Les Cananéens s'installent dans la région promise terre qui serait finalement la terre promise à Israël. Voyez-vous le point ici? Donc Canaan est maudit ici, ce n'est pas le descendant de Ham en Afrique. Cela n'a rien à voir avec les Cousites et les Africains. Et l'esclavage là-bas. Cela a tout à voir avec les Cananéens. Maintenant, au fait, est-ce que les Cananéens et les Israélites s'affrontent? Il y aura des batailles plus tard entre les Cananéens et les Israélites. Cela préfigure donc ces batailles avec les Cananéens. Pas l'esclavage des Africains. As-tu toujours ce truc? Ham est le fils de Noé et expose le comportement de Noé. Nudité et souillé ou fait honte à son père. Je pense que ce que vous avez ici est la loi du talion, la machine translated by Google. 14. Loi du talion. Vous le verrez plus tard et nous le développerons davantage. C'est œil pour œil. Dent pour dent. Comme vous m'avez fait, ainsi il vous sera fait. Donc je pense que ce que Noah, ce qu'il fait ici, c'est qu'il dit, comme toi, Tchem, tu m'as fait honte et que tu es mon fils, ainsi ton fils vous fera honte. Je pense donc que c'est ce qu'il fait en disant, Canaan, ici. Maintenant parle. Comment est cette conjecture? Oui. C'est une conjecture de ma part. J'essaie de le mettre en place. Pourquoi les Cananéens sont maudits? Mais il semble que ce soit une chose réciproque comme vous l'avez fait. Pour moi, ton fils te fera. Canaan est choisi, je pense, parce que c'est une préfiguration de ce qu'Israël fera et ainsi vous obtenez cette préfiguration déjà mise en place dans les Écritures. Cela devient assez compliqué, alors où les descendants de Ham se sont-ils installés? Nous l'avons dit. Certains d'entre eux sont allés en Afrique, mais certains d'entre eux étaient des Cananéens. C'était la malédiction. Asservir les Africains. Non, cela n'a rien à voir avec ça. Canaan est celui qui est maudit ici, pas que chez les autres descendants de Ham. Alors, qui était réellement maudit? Canaan. Personnalité individuelle et collective 36, 5, 1, 4, 1, 10. C'est là une question plus large et celle-ci devient également difficile. Nous avons affaire. Il y a beaucoup de problèmes culturels ici et certains de ces problèmes culturels deviennent vraiment difficiles. en particulier quand nous vivons en Amérique. Devons-nous faire face à beaucoup de honte et d'honneur dans notre culture? Non. Mais dans d'autres cultures, c'est la vie ou la mort, comme nous l'avons vécu en Amérique encore récemment avec. Certaines des choses qui se sont produites ont ensuite été étouffées. Et il est vrai que les enfants souffrent. Les péchés des parents. Je veux aussi réfléchir à la manière dont la punition arrive. Nous sommes Américains, nous considérons-nous comme des individus. Nous nous considérons comme personnes. Réalisez-vous que dans d'autres cultures, ils ne se considèrent pas comme des individus. Mais ils se considèrent comme faisant partie d'un groupe. Leur identité est enveloppée dans leur famille. Groupe. À propos, la Bible demandera-t-elle que certains groupes familiaux soient jugés comme des familles entières? Vous avez donc l'idée que ce jugement tombe sur tout un groupe de personnes. Maintenant, même en tant qu'Américain, cette histoire de groupe se produit elle-même en Amérique. Pour par exemple, mon fils et moi discutions de quelque chose comme ça et il a trouvé ça. Il a dit, supposons que vous soyez né en Afghanistan. Maintenant, question, vous n'êtes pas taliban. Vous cultivez simplement votre petite parcelle. Tu as 2 acres de terrain et tu as quelques moutons. Machine translated by Google. 15. Et des chèvres, principalement des chèvres. Vous êtes frappé par la pauvreté, vous avez une femme et 2 enfants. Et tout d'un coup tu n'as rien fait et tout d'un coup il y a ces 6 pieds 2200. Un gars de la marine qui casse la porte de votre maison et il traverse tout. Ta maison. As-tu fait quelque chose pour mériter ça? Tu n'as rien fait pour mériter ça. Que est-ce que tu as fait? La seule chose que vous avez fait pour mériter cela, c'est que vous étiez afghan. Vous étiez afghan. Les talibans font-ils de mauvaises choses et cela affecte-t-ils les autres? Personne. Oui. Permettez-moi de le replacer dans un contexte américain. Ne fais pas ça. Tu conduis en voiture. Et il est 1h du matin et un de tes amis a trop bu. Et il conduit. Tu es dans la voiture et il y a 4 enfants dans la voiture, et il a bu. Trop. Quand il tombe dans un accident, qui s'en sort? Il fait. Et il possible d'autres. Des gens dans la voiture se font tuer et il s'en va. Est-ce que ça me dérange? Tu ferais mieux de croire. Cela me dérange parce que dans un cas, je connaissais le nom de l'enfant. C'était un de mes amis. Quoi? J'essaie de vous le dire. Est-il possible d'être dans une voiture et pourquoi cette personne est-elle tuée? Et ce? Juste le fait qu'il est dans la voiture avec quelqu'un d'autre qui a un accident. Ce n'était rien de leur défaut du tout. Ce sont eux qui sont tués et il s'en va. Voyez-vous ce que je suis? En disant. Est-il donc possible à quelqu'un de prendre une décision et cela affecte d'autres personnes? Le groupe. Oui. C'est comme ça. Donc ce que je dis, c'est que le truc du groupe affecte les autres et qu'en fait, la pomme tombe près de l'arbre aussi. Y a-t-il des choses qui se transmettent dans les familles, des parents aux enfants? Il y a une famille que je connais, il y a eu un mariage dans la famille et le gars qui marié dans la famille dit toujours de la fille, la pomme ne tombe pas loin de l'arbre, en regardant la mère de famille. Maintenant question, y a-t-il un lien entre mère et fille? Est-ce que ce type s'est marié dans cette famille folle, est-ce qu'il voyant qu'il y a un lien entre la mère et la fille? Oui. Il dit que c'est un famille dont je suis sûr que vous êtes vaguement au courant. Mais tu sais ce que je dis, il y a de la famille. Caractéristique. Nous ferions mieux de sortir de là. Passons à Abraham. Machine translated by Google. 16. Abraham, l'ami de Dieu 41:1-1:4:2-58. Nous allons maintenant passer au récit d'Abraham. Nous sommes hors du jardin de Éden, nous sommes sortis de Noé et du déluge, et sautons par-dessus et regardons Abraham. Était arriver enfin à Genesis 12. Nous allons également commencer à avancer plus vite. Je ne peux pas répondre à tout. Les questions que vous vous posez dans les Écritures, mais je vais essayer de répondre à celles qui me semblent. Sont de grandes questions et traitez-les. Abraham va être l'un des plus incroyables individus dans l'Ancien Testament. Dr. Wilson, certaines personnes disent qu'il l'a rencontré, dit-il. Qu'Abraham est un type bien. Quoi qu'il en soit, je ne devrais pas dire des choses mais le livre du Dr. Wilson, or. Le père Abraham est excellent. Le Dr. Wilson est là-haut avec le père Abraham, à mon avis. Je ne peux pas vous dire à quel point je respecte le Dr. Wilson. Il a fait une étude sur Abraham et moi. Pensez pour une bonne raison. Je vais donner à chacun de ces patriarches un titre depuis Abraham, jusqu'à Isaac et Jacob. Le titre d'Abraham est « Abraham est l'ami de Dieu ». Est-ce que je viens d'inventer ça? Non. Voici Jacques chapitre 2 verset 23, « Et s'accomplit l'écriture qui dit Abraham a cru Dieu et cela lui a été imputé à justice. Cela vous semble-t-il familier? Et Abraham fut appelé l'ami de Dieu. Et ce un titre assez important, pour quelqu'un. Appelé, l'ami de Dieu. Que signifie être l'ami de Dieu? Je vais essayer de montrer, à travers notre étude d'Abraham, ce que signifie être l'ami de Dieu. Au fait, est-ce que je dis qu'Abraham est parfait? Non, Abraham va avoir son des problèmes comme tous les êtres humains ont leurs problèmes mais Abraham est appelé l'ami de Dieu. J'y reviendrai. C'est la dernière diapositive. Nous y reviendrons sur Abraham étant l'ami de Dieu. Géographie du Proche-Orient Ancien 42, 5, 9, 4, 6, 26. Maintenant, avant de faire cela, nous devons faire un peu de géographie. Avez-vous les gars? Téléchargez les PowerPoint. Ces cartes sont dans les PowerPoint. Tu n'es pas obligé d'essayer. Pour dessiner ces cartes. Je n'ai jamais pu très bien dessiner ces cartes. Mais, de toute façon, je veux juste parcourir cette carte. Cela devient important pour tout le reste de la Bible. C'est le terrain de jeu. C'est l'échiquier. Nous allons recommencer ici, sur le golfe Persique. Machine translated by Google. 17. C'est le golfe Persique. Nous avons ici le golfe Persique. Maintenant, nous voulons monter. Ici, l'Euphrate et le Tigre. Comment savoir lequel est lequel? Est-ce que quelqu'un connaît et est Euphrate barre oblique Tigre? Vous pouvez toujours savoir quel commande il. Entrez. Et est l'Euphrate et le Tigre. Ur des Chaldéens, nous avons le golfe Persique. Ici de quel pays s'agit-il? L'Iran. De quel pays s'agit-il? Irak. Nous connaissons donc ces deux pays. Ce sont les gens des montagnes, ceux-là sont les gens des plaines. Faire la montagne. Les gens et les gens des plaines se battent toujours. Oui. Donc ces gens, l'Iran, seront toujours en essayant de faire pression, ces gens, l'Irak, vont toujours essayer de faire quoi? Pousser. Dos. Au fait, est-ce vrai aujourd'hui? Est-ce que cela a été vrai pendant 2000, 3000, ouais, 4000 ans? Voici le golfe Persique, nous arrivons ici et voici le Koweït. Ici, nous avons le Tigre et Euphrate en marche. Est-ce que tout le monde voit Ur ici? C'est Ur. Or Abraham était d'Ur du Chaldéen. Si je vous dis Varsovie, que est-ce qui vous vient immédiatement à l'esprit? Varsovie. Pologne. Vous dites Varsovie, Pologne. Si je dis juste Varsovie, vous pensez à la Pologne. Mais je pense à Varsovie, dans l'Indiana, où je vivais. Alors parce que Varsovie, Indiana, est à un niveau inférieur à celui de la Pologne, dois-je nuancer cela en disant Varsovie, Indiana? Je pensais que ce que vous avez, c'est quand il est dit qu'Abraham est d'Ur en Chaldée, c'est exactement cela. C'est le grand Ur à Sumer et dans la plupart de vos Bibles, ils diront qu'Abraham est originaire de ici et il va jusqu'au nord. Il va monter à Haran ici. Ce que je ferai. Je vous le suggère et je suis plus convaincu par cela, mais je ne suis toujours pas sûr. Parce que nous ne savons pas. Ce qui a été suggéré maintenant, c'est qu'il existe un mur au nord de ici et qu'Abraham est descendu à Haran alors qu'il descendait en Israël. Par au fait, est-ce que cela a beaucoup plus de sens que de partir d'ici et au lieu de parcourir en Palestine par ici, en montant jusqu'à Haran? On suggère donc qu'il existe un or. Tu es là-haut. C'est un mur des Chaldéens. Il précise donc que c'est là que les Chaldéens est venu, et qu'il vient alors de ce nord dur. Nous ne savons pas où cela. L'endroit est. Il y a littéralement des centaines et des centaines de tels là-haut que nous ne connaissons pas. Où se trouve l'endroit? Donc ce que j'essaie juste de dire, c'est qu'il y a un mur au nord et un le sud dur. Je vais moi-même vers le nord maintenant, mais j'ai enseigné le sud dur pendant Machine Translated by Google. 18. Des décennies, mais je pense avoir vu de bons arguments maintenant selon lesquels il existe un mur au nord. Marie 46, 2747, 38. Maintenant, quels autres endroits sont vraiment importants? Il y a un autre endroit appelé Marie. Ici cet endroit appelé Marie est juste là où monte l'Euphrate et d'ici-ci. Tu as un bon chameau à double bosse avec un 4 au sol, tu peux tout faire. Chemin à travers. C'est donc le premier endroit où vous venez ici où vous pouvez prendre de l'eau, mais que est-ce que c'est? Le problème? Pourquoi Abraham n'a-t-il pas traversé le désert comme ceci? À voir. Vous avez déjà été dans un endroit où vous êtes pris dans un désert et où vous êtes à pied. Il n'y a pas les voitures, vous ne pouvez pas simplement sauter dans la voiture dans toutes les directions aussi loin que votre œil puisse voir. Désert absolu. Est-ce que cela vous fait peur? La réponse est que j'avais 25 ans quand c'est arrivé et c'était à perte de vue et il n'y avait aucune issue et vous avez tu as tes pieds, pas de voiture, rien. Question. Est-ce effrayant? Je veux juste te le dire. Toi. Sors dans le désert ici. Maintenant, est-ce que quelqu'un y va? Ouais, eh bien aujourd'hui, tu vois. Les gens conduisent des voitures là-bas. Mais quand tu n'as qu'un chameau, même les chameaux ne le font pas. Réussissez très bien à traverser ici. Mais ils peuvent s'en sortir à partir d'ici, donc Marie sera une place importante. Ils ont trouvé un tas de tablettes chez Marie. Nous allons donc avoir des tablettes de Marie à l'époque de Zimri l'un et Ramurabi, vers 1750 avant J.C. Nusu 47, 3948, 31. L'autre endroit où nous allons obtenir des comprimés est Nusu. Ils ont trouvé plusieurs 1000 comprimés à Nusu. C'est à Nusu que viennent de nombreuses coutumes. Nous allons voir beaucoup de coutumes anciennes. Je vais vous dire ceci ou cela est une coutume de cette époque. Comment savons-nous cela? On les retrouve dans ces comprimés chez Nusu. Alors Nusu nous en dira beaucoup. Des coutumes venant de l'arrière-plan de 1700-1800 avant J.C. au sein d'un couple, 300. Année d'Abraham. Donc ces deux endroits où Marie et Nusu vont nous apporter beaucoup de des informations sur l'époque juste après Abraham. Cela nous sera vraiment utile quand nous interprétons la Bible? Non non. Elle fait référence ici à un endroit du Sinaï, peut-être ici, on l'appelait Mara, ça voulait dire amer. L'eau était amère. C'est ici, dans le Sinaï. C'est le Sinaï. Péninsule. Marie est totalement différente, c'est sur l'Euphrate. Machine translated by Google. 19. Haran et Ebla 48, 3250, 45. Alors quand vous arrivez ici, Marie et Nusu, voici Haran. Qui est célèbre de Haran. Que vous connaissez. Rachel et Léa étaient de là-bas, et qui les a mis en relation, Laban. Est-ce que quelqu'un se souvient de Laban? Vous souvenez-vous de Rebecca? Elle était aussi de Haran. Je me souviens qu'elle s'occupait de l'abreuvement des chameaux ici à Haran. Donc celui d'Abraham. Chez lui, après avoir quitté Ur, il installe son camp à Haran. C'est là que meurt Tra, son père. C'est là que se trouvent les Eben, c'est de là que sont originaires Rachel et Léa, c'est là que se trouve Rebecca. Depuis. Donc Haran est leur maison. Abraham part alors et descend par ici. Maintenant deux. Sites vers la Méditerranée, l'un d'eux s'appelle Ebla. Le site Ebla provient d'environ 2400 avant J.C. Cela a été découvert, je crois, dans les années 1980 ou 1970. Au fait, pourquoi 2400? La Colombie-Britannique est importante pour nous. Abraham était quoi? 2000 avant J.C. Ebla et elle 400 ans avant Abraham. Cela va donc placer Abraham dans un cadre. Tu sais ce que je dis? Ça va? Donnez-nous comment c'était 400 ans avant Abraham. Cet endroit appelé Ougari était un autre endroit important. Au fait, cet endroit, Ebla. Il y a là de vrais problèmes. Ebla est dans quel pays? Syrie. La Syrie MTL à voir. Les gens trouvent des histoires bibliques à Ebla. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'ils sont sortis les premiers et a dit que Sodome et Gomorre avaient été trouvés dans les tablettes d'Ebla et que les Syriens s'en sont ensuite emparés. Des trucs avec certains Italiens et maintenant, pour être honnête, nous ne savons pas si beaucoup de choses sur Ebla. Il semble que le site ait été fermé. Il y a une tonne de choses là-bas. Et c'est dommage que le monde n'ait pas pu y parvenir parce que c'est tellement politique. Parle. D'une manière ou d'une autre, y a-t-il vraiment un conflit difficile en Syrie en ce moment? Réalisez-vous-le. Le président syrien Assad tue-t-il son propre peuple? Son père en a tué 10 000 dans un village. La Syrie traverse donc actuellement des moments très difficiles. Maintenant, quelle est la capitale de Syrie? Dama. Dama est l'une des plus anciennes villes du monde et c'est donc vraiment toute une ville. C'est Dama et la Syrie. Ougari et Égypte 50, 4653, 23. Maintenant ici, Ebla, 2400 avant J.C., un tas de tablettes dont on ne sait pas ce qu'elles contiennent. Parce que les Italiens et les Syriens s'en sont emparés. Ougari date d'environ 1400 à 1200. Avant J.C. À Ougari, ils ont trouvé des milliers de tablettes et il existe en fait une langue appelée Machine Translated by Google. 20. Ougaritique dont j'ai eu le malheureux privilège de pouvoir apprendre à lire en transcription. Devinez ce qu'ils ont trouvé là-bas. Dans la Bible, avez-vous déjà entendu parler de Béol? Dans la Bible, on nous dit qu'il existe ce dieu Béol et nous ne savons pas grand-chose de lui. Nous réaliser qu'il existe désormais des mythes entiers sur Béol. Nous avons tablette après tablette nous racontant des mythes. À propos de Béol et Ashré, son épouse. Donc on a des tonnes d'histoires, on sait qui est Béol. Maintenant, en grande partie hors d'Ougari. Donc Ougari va nous donner des choses à peu près au moment du juge. Finalement, nous descendons en Israël, nous avons la mer de Galilée, le Jourdain. Mer morte. Nous venons ici et c'est le Sinaï, vous pouvez voir la péninsule du Sinaï ici. Où ils traversèrent le Sinaï. Ici, c'est quel pays? Égypte. Cette ville est Alexandrie et elle porte le nom de Alexandre le Grand. Que est ce qui était célèbre à Alexandrie? Pour une bibliothèque. C'était comme une des premières bibliothèques du Congrès. Cette bibliothèque a essayé d'obtenir chaque livre au monde qui était un parchemin. C'était une collection incroyable. Il a été brûlé, incendié. Donc nous n'avons aucun de leurs enregistrements mais nous avons des enregistrements selon lesquels cet endroit était le centre de apprentissage. Alexandrie était le Boston du monde antique. En d'autres termes, c'était le centre d'éducation et d'apprentissage d'immenses bibliothèques et éducation. Dès que tu viens, jusqu'au Caire et à Memphis. Quand je dis Memphis, quelle est la première chose qui me vient à l'esprit? Ça te dérangeait. Memphis, Tennessee. Est-ce que quelqu'un fait du Memphis, Tennessee? Et la raison? Pourquoi j'en parle toujours, c'est à cause du roi. Le roi est enterré à Memphis. J'ai dit. Le roi lors du dernier cours et il ne savait pas de quoi je parlais mais pour mon génération, il n'y avait qu'un seul roi et c'était Elvis. Memphis, Tennessee. Si jamais vous allez grec, portez vos chaussures en daim bleu et parcourez les rues de Memphis. Il y a un autre endroit ici appelé Tel Amarna et c'est là qu'ils ont les lettres d'Amarna. Ce n'est pas important pour nous pour le moment mais cela le sera plus tard. Donc l'Égypte est là. L'Égypte est le dos du Nil. Si l'on enlève le Nil, que reste-t-il de l'Égypte? Désert. Des milliers de kilomètres dans chaque direction. L'Égypte est le dos du Nil. En fait, monte sur ton imagerie satellite Google Earth. Pouvez-vous réellement descendre et voir le Nil? C'est vraiment plutôt cool d'après une image satellite de Google. Machine translated by Google. 21. Schéma de la carte 53-2458-45. Maintenant, laissez-moi vous montrer une autre carte qui schématise tout cela et je. J'ai oublié une ville comme moi. Voici le sud d'Ur, voici Babylone, Marie, Nusu et Ninive. Dès que je dis Ninive, qui me vient à l'esprit? Jonas. Quand j'étais plus jeune, je pensais que Jonas chevauchait cette baleine, la baleine le recrache, puis il va à Ninive. Quel est le problème avec cette image? La baleine est ici. La baleine a-t-elle nagé tout le temps? Faire le tour de l'Afrique, puis remonter le Tigre à la nage. Quel est le problème? Le fleuve Tigre est à 3 ou 4 pieds de profondeur par endroit, donc c'était une vraie baleine maigre. Alors la baleine le recrache ici. Au bord de la Méditerranée. La baleine a-t-elle craché Jonas ici? Aucune chance. Il aurait fallu faire tout le tour de l'Afrique à la nage. Le canal de Suez était déjà construit. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la baleine la recrache ici. Jonas doit-il parcourir un long chemin? Là. Cela place simplement Jonas dans un contexte différent, sortir de la baleine et aller et prêcher le lendemain. Il y réfléchit longuement avant d'arriver à Ninive. Ninive était donc la capitale de l'Assyrie, avec des gens vraiment méchants. Je fais juste généralisation maintenant, mais c'était les Hitlers du monde antique. Ils étaient des gens incroyablement cruels. Jonas prêche le repentir, qu'a fait le peuple? Il se repentant et c'était incroyable. Leur repentir a choqué et attristé Jonas, sans compassion. Maintenant Marie possède plus de 25 000 comprimés. Il y en a eu 5 000 à Nusu. Chez Nusu. L'endroit d'où nous tirons une grande partie de nos coutumes. Et bla, il y avait environ 18 000 tablettes. Beaucoup de ceux dont nous attendons encore la traduction, Ougari, je pense que, dans mon esprit, je me souviens. On y a trouvé environ 12 000 comprimés. C'était une toute nouvelle langue alphabétique appelée Ougaritique. C'était aussi une toute nouvelle langue pour nous. Donc ce sont les endroits où je veux que vous alliez savoir. Est-ce que ça va? Travaillez donc à apprendre ces lieux. Et, n'est-ce pas? Euphrate, Tigre. Et? Alors au fait, juste pour le plaisir, que est-ce que c'est? Mer de Galilée, Jourdain, mort. Mer. C'est probablement une conception d'artiste ou une idée fausse. Lire et écrire 55-3758-46. Maintenant, j'ai trouvé certaines de ces tablettes cunéiformes en ligne. Je voulais juste que tu le fasses. Les voir. Tu te souviens que je t'ai dit qu'ils restaient dans la boue quand ils écrivent avec un stylet. Ce. Machine Translated by Google. 22. Est en fait une tablette Mari datant d'environ 1750 avant J.C. Il y a ce type appelé Zimrilin, il était roi de Mari, et devinez avec qui Zimrilin s'est affronté. Vous connaissez ce type. Hammurabi. Hammurabi et Zimrilin s'affrontent. Nous avons en fait des tablettes maintenant de Zimrilin dit, Hammurabi me frappe. Alors, voyez-vous comment ces tablettes êtes coincé avec le stylet. Vous pouvez effectivement voir l'extrémité du stylet et l'avant du style. C'est comme une sorte de ruée vers le taureau et vous le mettez dans la boue et pouvez-vous voir ça? Il le colle de cette façon, puis il le colle de cette façon. Il le colle de différentes manières. C'est un langage syllabique. Un langage syllabique signifie que chaque syllabe reçoit un symbole. Comment? Y a-t-il beaucoup de syllabes différentes? Si je te donnais les deux consonnes R et D, combien syllabes pouvez-vous faire avec R et D? Vous pouvez faire du rad, vous pouvez faire du grossier. Tu peux faire débarrasser, tu vois ce que je dis. Donc juste avec R et D, vous pouvez en gagner 15 ou 20 syllabes différentes. Maintenant, si chacune de ces syllabes avait un symbole différent et vous aviez 800 syllabes et vous deviez apprendre les 800 symboles avant de pouvoir lire ou écrire, qui pourrait lire ou écrire dans cette culture? Seulement les très riches. Vous auriez à être scribe, apprendre à lire. Cela signifiait donc que seule l'élite savait lire. La commune pourrait elle quelqu'un a lu ce truc? Probablement pas. Donc en gros, ils sont écrits par des scribes. Des scribes professionnels, des gens de grande classe et très peu de gens pouvaient le lire. C'est de la part de une des tablettes Mari, vous pouvez voir comment c'est. Au fait, ces tablettes debout, que est-ce que se passe-t-il quand il brûle le temple? Il le déclenche. Ça devient plus difficile et c'est pourquoi ils ont été conservés. Maintenant, en voici un et c'est vraiment cool. Cela vient des Blas. Au fait, peux-tu voir les colonnes et comment ils écrivent en colonnes? Voyez-vous cela? Cela ne le montre pas, mais sur le côté parfois, ils resteront sur le côté. Les tablettes sont à peu près aussi larges que votre iPad. Ils les mettront sur le côté et ils écriront le côté de ces choses comme bien. C'est assez bizarre, n'est-ce pas? Mais voilà à quoi ressemble une tablette. C'est un incroyable tablette. Est-ce que beaucoup de ces tablettes sont cassées? Il s'agit d'une tablette complète. C'est un peu incroyable. Hein? Au fait, il s'agit d'une tablette Ebla. Est-il possible qu'un doctorant à l'université de Pennsylvanie passerait 5 à 7 ans à travailler sur un doctorat en lisant cette seule tablette? Et quand il l'aura fait, il obtiendra un doctorat. Oui. C'est ce qui se passe dans le Machine Translated by Google. 23. Sous-sol de l'université de Pennsylvanie. Ils ont toutes ces tablettes que personne n'a jamais lues auparavant. Ils ressemblent un peu aux habitants des donjons. Ils les mettront là-bas. Le mec reste là-bas 5 ans, il sort, il lit la tablette, il gagne une tablette. Et il lui donne un doctorat. C'était une blague. Mais il y a une part de vérité là-dedans. Mais peu importe. C'est donc une tablette montrant à quoi il ressemble. Importance de l'alphabet 58, 4, 7, 6, 0, 12. Maintenant, en voici un et celui-ci est vraiment sympa car, que est-ce que c'est? C'est un comprimé ougaritique, vous verrez à quel point il est petit et différent, mais que est-ce qui est différent à ce sujet? L'un est celui-ci datant d'environ 1400-1200 avant J.C. C'est l'époque des juges. Celui-ci est alphabétique. Quel est l'avantage de l'alphabet? Langue syllabique, il faut apprendre 800 symboles avant de pouvoir lire et écrire. Avec l'alphabet, ça marche par phonème, pas syllabe. Cela dépend de la façon dont ils sont prononcés et il n'y a qu'environ 22 à 30 sons différents. L'alphabet ne comporte donc que 22 ou 30 symboles. À quel point faut-il être intelligent pour apprendre 22 symboles? Un enfant de maternelle peut-il apprendre 22 symboles? Donc, avec l'alphabet, est-ce une nouvelle technologie étonnante? Une personne ordinaire peut-elle lire après environ 1800 avant J.C. Et le l'alphabet, une invention incroyable. Je suppose que c'est ce que j'essaie de dire. L'alphabet est une invention incroyable qui a permis au commun des mortels de savoir lire. Dans le livre 2, les juges attrapent un enfant qui s'enfuit de cette ville en courant. Le gars attrape ce gamin, l'attrape et dit, et écrit tous les noms des anciens de la ville. Et l'enfant écrit les vers le bas. Ce n'était qu'un enfant, ordinaire. Attrapé au hasard. Il l'écrit. L'imprimerie et le numérique 60-1-3-6-2-48. Maintenant, permettez-moi juste d'insister sur une ou deux choses supplémentaires. L'alphabet se démocratise et il apprentissage. La structure de l'alphabet, 1800 avant J.C., démocratise et elle l'apprentissage. Oui. Cela fait. Poussez-le encore une fois. Vers 1450 après J.C., vous avez un gars qui a développé quelque chose. Appelé l'imprimerie. Désormais, au lieu qu'une seule personne copie un manuscrit avec une imprimerie, vous avez une seule personne capable de produire un millier de manuscrits. Question. Est-ce que cela démocratise à nouveau l'apprentissage? L'imprimerie. Vous voyez quelle incroyable invention de l'imprimerie dans les années 1450. Gutenberg a changé toute la carte. Machine translated by Google. 24. Maintenant, que s'est-il passé? Maintenant, quelle est la taille de votre alphabet? Deuxièmement, le numérique. Alphabet, 0/1. Nous sommes passés de 22 à 2. Votre alphabet est 0 et 1. Avec votre alphabet, avec 0 et 1, puis-je écrire votre alphabet en code ASCII? Oui. Avec une canette 0 et 1. Je mets ceci dans une image JPEG et transforme ces 0 et 1 en une image avec 16 millions de couleurs. Oui. Puis-je prendre ce même alphabet 0 et 1 et puis-je le transformer en son et le mettre dans un MP3? Un son que vous pouvez lire et entendre. Puis-je prendre ce même 1 et 0 et le mettre dans un vidéo et lire ces images à 30 images par seconde? Le 1 et le 0, dans ta génération, font-tu vois ce qui se passe? C'est votre génération. C'est formidable ce qui a. C'est il passé au cours des 30 dernières années. Et je me demande si je peux prendre ce 1 et ce 0 et puis je le mettre sur mon ordinateur et communiquer avec un gars qui étudie le grec et regarde mon avatar dans Inde. Puis juste avant l'école, un gars en Afrique du Sud utilise ce 1 et 0 et ce que ça peut aller dans le monde entier. L'apprentissage se démocratise et il. Alors ma question est la suivante. Chrétiens, utilisons-nous ce 1 et ce 0 maintenant, la puissance du 1 et du 0 pour la gloire de Dieu et le bien des autres ou l'abandonnons-nous pour que le mal l'utilise? Le mal l'utilisera et il. Oui. Alors ce que je suis. Ce qui suggère que vous vivez à l'ère numérique et que, pour être honnête, je suis jaloux dans un certain sens. Je suis un vieil homme. Je vais probablement commencer ici dans peu de temps. C'est honnête. Vérité. Je deviens un vieil homme, mais il y a tellement de choses sur ton visage. Ce que je suis. Dire c'est attrape-le, vaille grec. C'est extrêmement puissant et cela se produit dans votre génération. C'est vraiment cool. Quoi qu'il en soit, l'alphabet est vraiment important. Les trois coupures d'Abraham, couper les liens familiaux quitté Ur 62, 4964, 27. Nous allons parler d'Abraham, et Abraham a eu ses trois coupures. Abraham. Et les chapitres 12 à 25 de Genèse. La première coupe qu'Abraham doit faire est avec son propre famille. Le Seigneur a dit à Abraham, partez. C'est l'appel d'Abraham. Laissez votre ton pays, ton peuple et la maison de ton père, et va dans un pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une bénédiction. Et je bénirai ceux qui te bénissent et maudirai ceux qui maudiront. Toi. Première coupure, il doit quitter sa famille. Au fait, est-ce difficile de quitter sa famille ? Maintenant, vous venez d'Amérique, nous nous déplaçons partout. Tu dis non, ce n'était pas difficile. Du tout, je suis venu au Gordon College et tout va bien. Quand vous avez grandi dans ces cultures. Machine translated by Google. 25. Vous avez été élevé dans une famille élargie. Tous tes frères et sœurs, tes cousins, tes neveux, non seulement votre père et votre mère y vivent, mais aussi votre grand-père, votre grand-mère et tous leurs frères et sœurs vivent dans la même ville. Quand tu as quitté ce genre de est-ce que c'était grave de quitter le village? C'est une grosse affaire de partir. La première chose que Dieu dit à Abraham, partez. Qui va être ta famille maintenant? Fondamentalement, Dieu va diriger. Lui montrer une terre et lui montrer une nouvelle terre, donc la rupture des liens familiaux est un gros problème. Pourquoi est-ce? Est-ce que lorsque Dieu appelle les gens si souvent, il y a un oubli de quelque chose? Moïse doit quitter le désert du Sinaï et retourner en Égypte. Donc un fil conducteur qui se produit. Assez fréquemment dans les Écritures, on parle de rupture des liens familiaux. V. Melchizedek et le sauvetage de l'eau 64, 2, 8, 6, 7, 48. Maintenant, au chapitre 14, Abraham est à la poursuite, vous souvenez-vous, l'eau. Parcelle était le neveu d'Abraham. L'eau et Abraham se séparèrent et puis il y eut ce roi. Kedorlaomer qui descend et kidnappe l'eau. Il emmène l'eau et sa famille comme pillage. Abraham récupère ses 318 hommes et ils partent capturer ce roi. Ils reprennent l'eau, et il revient. Abraham est victorieux. Il revient et comme il arrive de retour, Abraham tombe sur ce type à l'improviste. Il rencontre Melchizedek. Melchi signifie roi, Zedek signifie justice, roi de justice. Alors il tombe sur Melchizedek, le roi de justice. Au fait, Melchizedek est le roi de quelle ville? Est-ce important aussi? Oui. C'est le roi de Salem. Mais quand en hébreu vous dites, ville de, vous dites Jérusalem. Et si vous dites Jérou, ville de Salem, et que vous dites, Jérusalem, très vite, tu comprends quoi? Jérusalem. Ce roi est roi de Jérusalem 1000 ans auparavant. Jérusalem était la ville de David. Melchizedek était roi de la ville de Jérusalem, ville de paix. Melchizedek apparaît, que est-ce qu'Abraham fait à ce type? Abraham lui donne un dixième de tout ce qu'il possède. Ce type n'est pas seulement un roi mais aussi un prêtre. C'est donc un prêtre et c'est un roi. De plus, c'est un prêtre du Très-Haut. Abraham lui paie un dixième de tout ce qu'il possède. Abraham honore il ce type. Oui. Maintenant, quelqu'un du dernier cours m'a demandé ça. Dans le livre des Hébreux se trouve Melchizedek, Jésus. Melchizedek est-il un Christ préincarné? Certaines personnes pensent que Machine translated by Google. 26. Melchizedek était le Christ préincarné. Moi-même, je recule en quelque sorte. Je pense que ce type est un roi et un prêtre et donc il représente le Christ. Il est comme le Christ dans l'Ancien Testament, mais il n'est pas vraiment Jésus. Il apparaît de nulle part et puis en fait après. Chapitre 14, nous n'entendons plus jamais parler de lui. Il est parti. Alors il apparaît en quelque sorte. Abraham lui paie la dîme, puis il repart. Alors certaines personnes pensent que c'est le Christ, Je pense qu'il représente probablement Christ comme une personne qui est un prêtre et un roi comme Jésus. C'est pourquoi il fait des choses similaires à Jésus. Il existe différentes approches. Et Hébreu reprend cela. Voilà donc Melchisédek de la Genèse, qui est une personne énigmatique. La vérité est que nous ne le savons pas vraiment. Il apparaît simplement, puis disparaît du texte. La raison pour laquelle je soulève cela se trouve dans l'Ancien Testament, seuls les Juifs savent. Dieu. Melchisédek l'a-t-il fait? Était-il juif? Non. Abraham n'avait pas encore d'enfant, donc il. Je ne peux pas être juif. Ce type n'est pas juif et connaît-il Dieu? Est-ce qu'Abraham l'honore? Avec une dîme pour connaître le Dieu très haut? Oui. Donc ce que je suggère, c'est que dans l'Ancien Testament ne pense pas que ce sont uniquement les Juifs. Il y a d'autres personnes qui vont apparaître dans le texte que vous allez lire et qui est sorti de nulle part et il connaître Jéhovah Dieu. C'est donc intéressant pour moi. Voici un gars qui n'est pas juif. Il connaît Dieu. C'est un prêtre du Très-Haut et c'est un roi de Jérusalem. Deuxième coupe abrahamique, coupez une alliance 67, 4 9 7 2, 47. Maintenant, une autre coupure ici se trouve au chapitre 15, et celle-ci est difficile. Au chapitre 15 vers le bas. Vers le verset 10 environ, alors que le soleil se couchait, le verset 12, Abraham tomba dans un profond sommeil. Une obscurité épaisse et terrible l'envahit. Alors le Seigneur dit, sachez avec certitude que vos descendants seront des étrangers dans un pays qui n'est pas le leur et ils seront réduits en esclavage et maltraités pendant 400 ans. Que est-ce que cela serait? Ils seront réduits en esclavage et maltraités pendant 400 ans. Dieu a-t-il dit à Abraham à l'avance que ses descendants allaient-ils aller en Égypte pendant 400 ans et qu'ils seraient maltraités et réduits en esclavage? Dieu le lui dit à l'avance. Alors Dieu vient et lui dit d'autres choses et alors Dieu dit en gros, je ne peux pas encore vous donner le pays parce que le péché des Amoréens est pas encore plein. Alors Abraham, je vais te donner cette terre, mais je ne peux pas encore te la donner. Machine translated by Google. 27. À cause du péché des Amoréens, elle n'est pas encore rassasiée. Quelle est l'implication? C'est Dieu disant que le péché des Amoréens devient de plus en plus grand et quand il atteint un certain niveau, alors il va faire venir les Juifs pour les détruire. Mais ce n'est pas encore plein alors. Ils ne peuvent pas avoir la terre. Puis le verset 17 du chapitre 15, quand le soleil se coucha et que les ténèbres furent tombées, un pot à feu fumant avec une torche allumée est apparu et est passé entre les morceaux. Abraham a dû couper cet animal en deux. Puis ce pot à feu flamboyant passe entre les deux parties du animal. Est-ce que quelque chose de symbolique se passe ici? Il s'avère que nous avons. J'ai une bonne idée de ce que signifie cette scène. Cela pourrait être de deux choses. D'abord, ceci. L'animal est éteint, et il est maintenant coupé en deux comme cet animal est éteint, maintenant Dieu est. Abraham est devenu un dans l'alliance. Au fait, avons-nous des alliances même pour cela? Jour où deux ne feront qu'un dans une alliance. Pensée grecque. Oui, le mariage. Et ainsi. Ce que vous avez ici, c'est cette alliance dans laquelle Dieu et Abraham sont liés ensemble. L'union symbolisée par cet animal est éteinte, maintenant nous devenons un essai. Possible? Quelqu'un a-t-il déjà fait ça? Vous ne faites probablement pas ça dans votre génération. Mais dans ma génération, nous avions ce qu'on appelle des frères de sang. Alors Dave Rims et moi. Quand on était plus jeune, on se coupait, ne fais pas ça. Eh bien, en fait, tu fais ça. couper des trucs. Désolé, c'était une mauvaise blague. D'accord. Mais Rims et moi voulions être du sang. Frère. Nous étions vraiment de bons amis, c'était mon meilleur ami, nous voulions être du sang. Frère, alors il s'est coupé, je me suis coupé et nous avons échangé du sang. Ne fais pas ça aujourd'hui. Mais de toute façon, nous ne savions pas mieux à l'époque, alors nous avons échangé du sang. Donc cette idée de le sang qui lie les choses ensemble, c'est ce que j'imagine que j'essaie de dire. Il existe maintenant une autre approche et je pense que la seconde est probablement plus précise. Ce que c'est ressort du chapitre 34 de Jérémie, verset 18. Le symbole utilisé dans Jérémie, c'est que cet animal est coupé en deux, c'est accent grave dire que si vous violez l'alliance, vous serez coupé en deux comme cet animal. C'est ce qu'on appelle la ratification de l'alliance. Comment pouvons-nous ratifier les alliances aujourd'hui? Êtes-vous déjà allé à la banque et avez-vous consulté un notaire et le notaire gaufre ce papier? C'est comme ratifier le pacte. Il s'agit de l'approuver. Toi. Machine translated by Google. 28. Je sais quand il tamponnant un gaufrage, et c'est bien. Il s'agit donc de la ratification ou célébration de l'alliance. Comme cet animal en était un, et qu'il a été coupé en deux, si vous violez l'alliance, tu seras coupé en deux. Maintenant, que se passe-t-il avec ça? Qui passe entre les deux parties? Dieu le fait. Donc, ce que Dieu fait ici, c'est se lier à Abraham, le fumer un pot à feu représente peut-être Dieu, et ce que cela dit ici, c'est que Dieu est se liant à Abraham dans cette alliance. Dieu déclare solennellement qu'il gardera son engagement. Au fait, que est-ce que l'alliance de Dieu? Dieu a promis à Abraham trois des choses. Ce sont, le pays la terre promise, le pays de Canaan. La graine, que sa graine sera multipliée comme quoi? Étoile du ciel. Sa semence sera multipliée à mesure que le sable du bord de mer et qu'il serait quoi? Il serait une bénédiction pour toutes les nations. Donc, Abraham s'est vu promettre la terre, la postérité et le fait qu'il serait une bénédiction pour toutes les nations. Dieu a promis cela à Abraham et dans ce processus de découpe de l'animal et du un pot à feu entre les deux, Dieu dit, je garderai mon alliance. Je vais faire ça. Alliance avec toi. Je suis lié par cette alliance. Vous obtiendrez la terre, les semences et le bénédiction. C'est donc la ratification de l'alliance dans laquelle Dieu participe à cette alliance abrahamique. Troisième coupure d'Abraham, circoncision 72, 4, 8, 7, 8, 36. Maintenant, il y a encore une coupure et c'est la coupure de sa chair dans Genèse chapitre 17. J'ai besoin de vous raconter une petite histoire lorsque j'en parle. Il était une fois j'enseignais à une autre école pendant 22 ans. C'était un endroit appelé Grace College. C'est très conservateur. École, une école très centrée sur Dieu et centrée sur la Bible. J'avais devant cette fille qui était assise. Là. Avez-vous déjà vu des étudiants et ils notent chaque mot que vous dites et ils sont, oh, je crois tout, professeur Hildebrandt. C'était quand j'étais plus jeune. Donc elle était vraiment intéressée et elle écrivait tout, alors nous avons revu ce texte sur Genèse chapitre 17. Cette fille lève la main et demande, « Professeur Hildebrandt, il est dit dans ce chapitre qu'Abraham a été circoncis et qu'il circoncit ses fils, que est-ce que c'est de toute façon ?» Maintenant, la première chose à laquelle j'ai pensé était, est-ce que les étudiants définissent les professeurs en haut? Alors je la regarde droit en face et je m'attends à ce petit sourire narquois sur son visage comme Machine translated by Google. 29. Je t'ai maintenant, que est-ce que tu vas faire? Alors je la regarde et elle me donne ce blanc. On dirait qu'elle est si innocente. Elle est juste prête à écrire la réponse. Je dis ça. Vache, elle me le demande vraiment, je veux dire en vérité, elle me le demande. Je pense, je peux juste. Voyez-le maintenant, Rildebrandt est renvoyé pour avoir dessiné des images au tableau. Alors je rentre à la maison. Nuit et je l'ai dit à ma femme, j'ai dit, tu ne peux pas y croire, cette fille est née en vérité devant. Dans toute la classe, cette fille m'a demandé ce qu'était la circoncision. Peux-tu croire ça? Ma femme se tourne vers moi et elle dit, tu sais, quand j'étais en 7e ou 8e année, je ne savais pas ce que c'était non plus. Je suis allé demander au pasteur ce que c'était. J'ai pensé putain de vache, c'est ça. Assez bizarre, puis j'ai réalisé que la plupart des hommes sont désormais circoncis à la naissance. Ce que je suis. Dire que beaucoup de gars ne le savent même pas. Alors laissez-moi simplement dire, ce que c'est, à la fin du. Sur le pénis de l'homme, il y a de la peau qui dépasse d'environ un demi-pouce, ce qui se passe, c'est le médecin. Le coupe. C'est ce qu'on appelle le prépuce. Il a coupé ce prépuce. Maintenant, au fait, ça se passe. Quand tu es bébé. Je le sais parce que j'ai eu deux garçons. Quand ils le font à un bébé, ils... J'ai mis à peine. Je ne plaisante pas, j'ai eu plus de problèmes avec ça que mes fils. Ils... C'était fini et les bébés gémissaient à peine. Essayez ça sur un jeune de 18 ans. Et ce un problème. D'ailleurs, dans la Bible, est-ce que ça va être un problème plus tard? Abraham était... circoncis à 75 ans, est-ce un problème? C'est un problème? Bref, juste quelque chose à penser à. Au fait, est-ce que cette circoncision est une grosse affaire? La circoncision est-elle la façon dont les Juifs s'identifient? Les Juifs sont-ils de la circoncision, et si vous êtes un gentil, vous êtes quoi? Incirconcis. Avez-vous déjà entendu cette terminologie, gentils incirconcis? C'est ainsi que les Juifs l'ont utilisé comme marqueur ethnique démontrant leur appartenance au judaïsme. Maintenant, est-ce que d'autres cultures pratiquaient la circoncision en dehors des Juifs? Oui, d'autres cultures l'ont fait. Mais est-ce que Dieu dit? Ici, alors que d'autres cultures pratiquaient également la circoncision signifie pour vous un signe de la engagement. C'est ainsi qu'il est scellé. L'alliance est scellée dans votre chair. Maintenant laisse-moi juste. Allez ici une seconde et l'un d'entre vous est issu d'un milieu presbytérien. Les presbytériens baptisent les enfants et permettez-moi de soulever certains de ces points ici. Circoncision. Cela devient une alliance inconditionnelle, la terre, la semence et la bénédiction. Certains d'entre vous sont-ils d'origine presbytérienne? Dans le contexte presbytérien, est-ce qu'il... Machine translated by Google.
30. Baptist is early BBs? Oui, ILSLE font. Realisez-vous que c'est sur la base de la circoncision? Les Juifs
étaient censés être circoncis le 8e jour. Maintenant que la circoncision montre que... Il faisait partie de la communauté de l'Alliance. Les presbytériens, lorsqu'ils baptisent les bébés. Ils disent que nos bébés, comme la circoncision et le baptême, nos bébés font partie de la communauté d'Alliance des croyants en Christ. Et ce pour cela qu'ils baptisent les bébés /nourrissons. Il s'agit essentiellement d'accueillir ces enfants dans la communauté de l'Alliance. Au fait, certains d'entre vous sont-ils baptistes? On ne baptise pas les bébés. Mais peux-tu vous voyez pourquoi les presbytériens feraient ça? Comme la circoncision dans l'Ancien Testament et baptême dans le Nouveau, vous incluez ces enfants dans la communauté de l'Alliance. Donc, c'est un peu de là que ça vient. L'Alliance d'Abraham et la terre, la semence et le bénédiction. Une fois qu'Abraham s'est circoncis lui-même et son enfant, l'Alliance est inconditionnel. Autrement dit, Abraham a rempli les conditions de l'Alliance, ce qui signifie alors que Dieu est maintenant obligé pour la terre, la semence et la bénédiction. C'est un alliance inconditionnelle maintenant. L'alliance abrahamique est inconditionnelle. Maintenant, quand tu entrais dans l'alliance mosaïque, devais-il y obéir pour obtenir des bénédictions et maudire? Devait-il y obéir et s'il désobéissait, il recevait la malédiction. Avec Abraham, l'alliance est inconditionnelle. Alors Dieu travaillera avec les descendants d'Abraham. Garantie. Ils obtiendront la terre, les semences et seront une bénédiction pour les nations. Quoi? Se produit maintenant, il y aura d'autres alliances conditionnelles. Ils seront conditionnés en fonction de leur obéissance. L'alliance avec Moïse est conditionnelle, donc je veux juste dire qu'une fois circoncis, c'est tout. Le pacte est ratifié dans ce sens. Problème de critique, Chameau 78, 3, 7, 8, 0, 18. Il y a maintenant quelques problèmes. Ce sont des problèmes généraux que les critiques trouvaient avec le texte. Dans Genèse chapitre 12, il est dit qu'Abraham a des chameaux. Maintenant, quel est le un problème avec ça? Il y a des années, il disait que la Bible comportait une erreur ici parce qu'il disait les chameaux n'ont été domestiqués que vers 1200 avant J.C. Quel est le rendez-vous d'Abraham? 2000 avant J.C. Ainsi, ils disent qu'Abraham était âgé de 800 ans avant que les chameaux ne soient domestiqués, donc la Bible dit. J'ai une erreur ici. Abraham ne pouvait pas avoir de chameaux domestiqués. Donc, Machine Translated by Google. 31. La Bible contient une erreur. Et voilà, devinez ce qui se passe. Il trouve à Ebla, 2400 avant J.C. C'était 400 ans avant Abraham, et devinez ce que les gars d'Ebla ont domestiqué. Chameaux. Les critiques critiquent donc la Bible sur la base des chameaux et franchement ils ont trouvé. Maintenant que même 400 ans avant Abraham, les chameaux étaient domestiqués. Avez-vous déjà côtoyé des chameaux? L'autre question que je me pose est la suivante, les chameaux sont-ils toujours domestiqués? Ces animaux ont de la personnalité et certains chameaux sont vraiment très méchants. Je te le dirai un jour, quand nous aurons des trucs, même si c'est sur bande maintenant, je le ferai. Vous racontez des histoires de chameaux. Nous avons séjourné dans la tente bédouine pendant plusieurs nuits. Les bédouins élèvent des chameaux, et le gars est parti une nuit et nous a dit 3 heures de chameaux. Blague? C'est la vérité honnête. Toute leur culture est construite autour du chameau. Les chameaux sont des créatures étonnantes. Les chameaux sont des animaux phénoménaux. Les critiques et les hittites 80, 1, 9, 8, 1, 28. La Bible dit qu'Abraham a rencontré des hittites dans Genèse 15, 20, mais les critiques a dit et, il n'y a aucune trace de hittites et nous en savons beaucoup sur le monde antique. Et il n'y a aucune mention des hittites. Et ainsi parce que la Bible mentionne les hittites et les philistins sont de retour avec Abraham, cela ne peut pas être vrai. La Bible doit donc contenir des erreurs. Eh bien, encore une fois, devinez ce qui se passe. Un type est en train de creuser dans la haute Turquie. Et tout à coup il tombe sur Bogazkoy. C'est la capitale de l'empire hittite. Pas seulement il y a une capitale hittite mais nous savons maintenant que c'était tout un empire. Il y a un tout. Langue hittite. Vous pouvez refaire un doctorat en apprenant à lire ces textes hittites dont certains, je suppose, n'ont pas encore été traduits. Il y a toute une culture de hittites. Maintenant, nous les connaissons. Ils venaient du centre nord de la Turquie. Je sais qu'il y avait des hittites. À propos, est-ce que quelqu'un se souvient que Uri le hittite était le mari de Bethsabée avec David? C'était donc un autre hittite, mais Abraham tomba sur les hittites aussi et nous savons maintenant qu'il y avait tout un empire hittite en Turquie. Donc, encore une fois, les critiques avaient tort. Dan dans Genèse 14, 14, anachronisme 81, 2, 9, 8, 5, 24. Or, ce troisième problème pose un réel problème. Si vous avez vos Bibles, laissez-moi juste lire. ça à toi. Dans Genèse chapitre 14, verset 14, il s'agit d'un problème sérieux. Je dois essayer de. Machine translated by Google. 32. Expliquez celui-ci. Il est dit, quand Abraham apprit que son parent Lot avait été emmené captif, il appela les 318 hommes entraînés nés de sa maison et se lança à sa poursuite jusqu'à Dan. Maintenant, où est Dan? La ville de Dan, si je suis Jérusalem ici, alors Kyle, tout au fond de la pièce il y a Dan. Dan est la partie la plus septentrionale d'Israël. Maintenant tu dis, attends. Ril de Brent, quel est le problème avec ça? Il l'a poursuivi depuis le sud où il était à Jérusalem, jusqu'à l'arrière-salle là-bas. Il n'y a aucun problème avec ça. Le problème était que Dan n'a pas été nommé Dan avant l'époque de Josué et des juges. Fondamentalement, la tribu de Dan, si c'est Israël ici, la tribu de Dan s'est installée près du plaine côtière avec les Philistins. Dan n'aimait pas être avec les Philistins parce que s'est-il passé lorsqu'ils étaient autour des Philistins? Qu'ont fait les Philistins aux gens? Ils les ont tués. Dan dit, nous n'aimons pas ces Philistins. Ils nous ont battus alors. Nous allons emmener notre tribu d'où se trouvent les Philistins, dans la plaine côtière, ici, et nous ne voulons pas nous battre tout le temps avec les Philistins, alors nous allons déplacer tout notre territoire. La tribu retourne là où se trouve Kyle. Nous allons prendre toute la tribu et la réduire à une ville. Cette ville s'appelait Dan. C'est une ville célèbre en Israël, mais elle s'appelait Dan. Seulement plus tard. À l'origine, c'était Laïch. Donc ce que vous avez ici est ce qu'on appelle un anachronisme. Maintenant, que est-ce que ça fait? Chronisme. Voyez-vous là le mot, chronisme. Chronologie, chrono signifie temps. Anachronisme signifie, hors du temps. Autrement dit, la ville de Dan, Abraham. Je ne pouvais pas connaître la ville de Dan. Je suppose que c'est ce que j'essaie de dire. Dan ne portera pas ce nom avant 800 ans. Vous dites, eh bien, comment se fait-il que ce soit dans la Bible? Dans la Genèse? Je pense que c'est la même chose si je te disais on va aller à Liberty Tree. Centre commercial. Où se trouve centre commercial Liberty Tree? Dans quelle ville est-ce? Est-ce que quelqu'un connaît Denver's? J'ai dit que nous allions aller au centre commercial Liberty Tree à Denver's, tout le monde saurait où. C'est accent grave dire. Mais si je vous disais, nous allons aller au centre commercial Liberty Tree à Salem Village. Tu saurais où c'est. Il y a de nombreuses années, Denver s'appelait Salem Village. Personne ne s'en souvient maintenant. Donc le problème c'est que si j'écris un livre moderne et j'ai mis Salem Village, est-ce que quelqu'un saura où c'est? Non, mais si je disais Denver, est-ce que tout le monde le saurait? Oui. Donc ce que je dis, c'est que le texte semble avoir été mis à jour. Machine translated by Google. 33. Ici le texte semble avoir été mis à jour et le nom original qui était, Laïch, est donc mis à jour vers Dan. Il est maintenant possible que Josué l'ait fait. Qui a terminé le Pentateuque? A fait. Moïse a-t-il fini d'écrire le livre du Deutéronome? Non. Moïse est ce qu'à la fin de Deutéronome. Il est mort. C'est assez difficile, du moins d'après ce qu'on m'a dit, c'est assez difficile de écrire quand tu seras mort. Ainsi, le livre du Deutéronome a probablement été terminé par Josué. Est il possible que Josué ait inséré ce nom plus tard ou que quelqu'un encore plus tard que Joshua l'a inséré parce qu'il pensait, et, vous ne savez pas où se trouve cette ville. Si je dis, Dan, tout le monde sait où est Dan. Le texte a donc été mis à jour. C'est un problème sérieux. Problème pour certaines personnes, mais je pense que pour être réaliste, nous devons dire qu'Abraham ne connaissait pas le nommé Dan parce que ce n'est que beaucoup plus tard que Dan est arrivé là-haut. Commentaire de l'étudiant. Elle a dit, est-ce que cela rend les choses fausses? Ce que je dis, c'est non, c'est pas faux, c'est juste que le nom a été mis à jour. La langue a été mise à jour parce que personne ne sait où se trouve le village de Salem et tout le monde sait où se trouve Denvers. D'accord. Donc c'est un gros problème ici. 1b. Les 3 enfants d'Abraham. Fils numéro 1, Éléazar de Dama 85, 2, 5, 8, 6, 29. Abraham a 3 enfants. Nous allons simplement faire cela rapidement. Le premier des 3 était Éléazar de Dama. Quel est le problème d'Abraham? Sarah est stérile et ne peut pas avoir d'enfants, alors. Laissez-moi juste raconter cette histoire. Alors Abraham vient vers Dieu et dit, Dieu, tu as dit. Tu vas me bénir avec cette terre, ces semences et cette bénédiction, mais je n'ai pas eu d'enfants. Cela ne me sert à rien. Et il dit, en plus, je n'ai pas d'enfants et Éléazar de Dama, mon serviteur, va tout obtenir. Tout l'héritage ira à Éléazar de Dama. C'est donc le premier des enfants d'Abraham. Éléazar de Dama, son serviteur, allait recevoir l'héritage. Au fait, est-ce légitime? La réponse, c'est oui. Nous savons que grâce au code d'Amourabi et à certains de ses anciens codes de loi qui, si une personne mourait et n'avait pas d'enfant qui recevait ses biens, le domestique a reçu la marchandise. Donc, cela suit les anciennes lois selon lesquelles Éléazar de Dama obtiendrait le héritage. Dieu vient à lui et lui dit non, ce ne sera pas Éléazar, ce sera quelqu'un de votre propre chair. Ce n'est donc pas Éléazar mais c'est le premier qu'Abraham pensait qu'il. Machine translated by Google. 34. Aurait, son serviteur. C'est à Ismaël et Agar, fils numéro 2 86, 3089, 51. Alors que se passait-il avec Agar? C'est en fait un texte très important dans Genèse chapitre 16. Laissez-moi simplement raconter cette histoire. Agar est la servante d'Abraham, sa serviteur, qui met Abraham en relation avec Agar. Sarah. Sarah dit à Abraham, je ne peux pas avoir enfant. Allez à Agar et concevez avec elle et l'enfant sera alors mon enfant et c'est pourquoi il recevra l'héritage et il sera notre enfant. Maintenant, c'est exactement comme le loi d'Amourabi. Ils suivent les lois et les coutumes de leur époque. Maintenant c'est un gros problème. Nous devons sortir de notre culture. Le code d'Amourabi disait-il que c'était c'est bien pour un maître d'aller chez sa servante et que quel que soit l'enfant qu'il aura, ce sera son enfant adopté. Oui. Cela était autorisé dans les lois d'Amourabi. Maintenant, vous dites, waouh, c'est Abraham qui trompe Sarah. Est-ce qu'Abraham triche sur Sarah? Sarah l'a-t-elle vu de cette façon? Abraham l'a-t-il vu de cette façon? Non, je pense que ce que nous devons faire, c'est retirer cela d'eux, comme le dit un camarade du dernier cours, Abraham et avoir des relations sexuelles avec cette autre femme. Et c'est la façon dont les Américains envisagent les choses. A fait Abraham, tu y penses comme ça. Abraham a des relations sexuelles et trompe sa femme. Non. Ils y pensent comme ça. Ma femme et moi ne pouvons pas avoir d'enfants. Mais si nous ne pouvions pas avoir des enfants, est-il possible qu'il puisse prendre une partie de moi, une partie de ma femme, et trouver une femme qui nous payons 10 à 20 000 dollars et ils l'ont mis dans cette autre femme et elle, cette mère porteuse, a-t-il l'enfant? C'est ce qui se passe ici. Abraham peut-il aller chez lui médecin et mettre les pièces dans un tube à essai et les mettre dans l'autre femme? Abraham ne peut pas le faire. Il doit donc le faire de manière naturelle. Donc, en gros, ce que vous avez, c'est que vous devez le mettre dedans. Le contexte de la femme porteuse. Il ne s'agit pas de tromper sa femme. C'est sa femme qui a organisé ça. Rigueur est la femme porteuse. Soit dit en passant, même à l'époque moderne, lorsqu'un bébé éprouvait est placé dans un autre. Femme et elle porte cet enfant, vous souvenez-vous de ce cas dans le New Jersey? La femme porte l'enfant, la femme qui porte l'enfant veut elle garder l'enfant. Et ce que tu te souviens de ça? La femme qui a porté l'enfant était attachée à l'enfant et elle ne le faisait pas. Je veux le rendre au mari et à la femme. Machine translated by Google. 35. Cela pose-t-il des problèmes même dans l'Amérique moderne avec les éprouvettes et les bébés? Cela pose toujours un problème. Y a-t-il eu un problème après que Sarah lui ait confié Agar? Les genoux de mon mari. Y a-t-il de la jalousie entre Agar et Sarah? Oui. Est-ce que ça marchait à l'époque? Ou y a-t-il eu des problèmes associés à cela? Cela signifie-t-il que Dieu approuve cela? Ou est-ce ce qu'ils ont fait dans leur culture? Y a-t-il des choses enregistrées dans la Bible qui ne disent pas nécessairement que cela est vrai? Pour toujours. Si cela faisait partie de leur culture, cela n'était pas destiné à être universalisé. Alors toi, devons séparer les normes culturelles des universaux moraux. Vous devez les séparer. 2. Au fait, Dieu couvre-t-il Ismaël et Agar? Dieu les protège-t-il? Oui. Dieu prend soin d'eux-mêmes après que Sarah les ait chassés et qu'ils soient partis dans le désert. C'est donc un gros problème ici. Annonce. Troisième fils, Isaac, fils de l'Alliance 89-529-1-03. Enfin, vous obtenez cet Isaac, c'est le fils de la promesse née de Sarah et Abraham. Quand ils sont très vieux. Que signifie le nom d'Isaac? Isaac signifie, rire. Sarah. A ri, Abraham a-t-il aussi ri? Il a également ri. Alors son nom est Isaac, rire. Ce est donc le fils de la promesse tant désiré et attendu. Nous allons arrêter là et nous nous reverrons jeudi. Il s'agit du docteur Ted Hildebrandt dans la 8e conférence de son Histoire et littérature de l'Ancien Testament. Et cours de théologie. Cette conférence a commencé avec les fils de Dieu et les filles des hommes en Genèse chapitre 6 et passa à Abraham, l'ami de Dieu, la géographie de Mésopotamie ainsi que trois coupures dans la vie d'Abraham et de ses trois enfants présumés. Transcrit par Yung Chang. Brut édité par Ted Hildebrandt II.